Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 9 octobre 2021. Sous l'égide de l'OCDE, 136 pays s'accordent pour imposer une taxe minimale sur les multinationales. Son taux est fixé à 15%. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier une première définition de ce qu'est le Covid long, une définition qui devrait mieux permettre d'en identifier les symptômes et surtout de soigner cette maladie. Enfin, dans un contexte de tensions très vives en ce moment entre la Chine et Taïwan, des sénateurs français sont actuellement à Taipei où ils ont rencontré plusieurs personnes haut placées de ce régime. C'est un effort mondial inédit. 136 pays réunis sous l'égide de l'OCDE viennent de se mettre d'accord sur la taxation des multinationales. Un taux d'imposition minimum de 15% sera appliqué à partir de 2023. En Europe, l'Irlande, la Hongrie et l'Estonie, qui étaient réticentes à cette mesure, ont fini par s'y rallier. On attend de cette nouvelle taxe, qui s'appliquera donc dans des pays dont les économies représentent 90% du PIB mondial, qu'elle permette de faire rentrer 150 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses publiques. On écoute les explications d'Olivier Roger pour Radio France Internationale.
Les multinationales doivent payer des impôts dans les pays où elles réalisent des profits. Voilà le principe qui a guidé les 136 signataires de l'accord, un principe qui était loin d'être évident pour tous, alors que les multinationales s'ingénient depuis des décennies à échapper à l'impôt, ce que l'on appelle l'optimisation fiscale. L'accord conclu ce vendredi était en négociation depuis de longs mois, sous l'impulsion notamment des États-Unis et de la France, mais il a fallu obtenir le ralliement de pays clés, comme l'Irlande par exemple, siège européen des géants que sont Apple, Google ou encore Facebook, et qui proposait à ces firmes un régime fiscal plus qu'avantageux. Notez qu'en Afrique, le Kenya et le Nigeria, qui s'étaient d'abord engagés en faveur de l'accord, ont finalement refusé de le paraffer sans fournir de justification. Reste que ceux qui pensent que les paradis fiscaux s'évanouissent vont devoir déchanter. Les Pandora Papers, nouveau scandale planétaire d'évasion fiscale, prouvent qu'en la matière, beaucoup reste encore à faire. Des ONG et des économistes critiquent d'ailleurs l'accord de l'OCDE pour, disent-ils, son manque d'ambition.
Une mosquée chiite a été visée par un attentat suicide dans le nord de l'Afghanistan. L'explosion a tué et blessé des dizaines de fidèles. Le chiffre d'ailleurs n'est pas précis, il varie entre 50 et 300 personnes selon les sources. En tout cas, c'est la pire attaque perpétrée en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans, une attaque revendiquée par Daesh, l'État islamique. Hussein Dad Rezaei était sur place. Il décrit la scène qui s'est déroulée sous ses yeux.
I was busy in construction work at home. As soon as the praying started, the explosion sound came. As I went to look for my relatives in the mosque, I saw it was full of everyone lying around. The number is not yet clear.
Le prix Nobel de la paix cette année a été attribué à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa, dont le site internet Rappler est l'un des plus vifs critiques du président Rodrigo Duterte, ainsi que ce prix donc attribué également au russe Dimitri Muratov, lui aussi critique du président russe Vladimir Poutine. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, leur a rendu hommage. Il a rappelé également l'importance de la liberté de la presse dans le monde.
No society can be free and fair without journalists who are able to investigate wrongdoing, bring information to citizens, hold leaders accountable and speak truth to power. Free and independent journalism is our greatest ally in combating misinformation and disinformation.
Le Parlement espagnol examine en ce moment un projet de loi sur le logement. Cette loi, qui est portée par le gouvernement socialiste à Madrid, entend notamment réguler le marché des locations alors que le prix des loyers explose dans les villes, au point que les jeunes n'arrivent plus à se loger. À Madrid, François Musso pour RFI.
Le prix des locations d'appartements s'envole depuis des années et une large partie de la population, jeune principalement, a toutes les peines du monde à se loger. À Madrid, la situation est spécialement critique. Andrea, 25 ans, est employé dans un centre de soins.
Pour vivre, on n'a pas d'autre choix que de partager un appartement. On n'imagine même pas pouvoir se loger seul. Les loyers n'arrêtent pas de grimper. On est enchaîné. Concrètement, on vit pour pouvoir payer son loyer.
Dans la nouvelle loi, il y a des mesures pour pénaliser les propriétaires possédant plus de 10 appartements. Mais ce qui, dans cette loi, intéresse particulièrement Andrea et tous les moins de 35 ans qui gagnent moins de 23 700 euros par an, c'est la possibilité de disposer de 250 euros de bonus mensuel pour une location. Pour autant, beaucoup de jeunes sont sceptiques sur l'efficacité de cette mesure, à l'instar de Joaquin, vendeur dans une boutique de parfums sur la Grande Via, qui passe les concours pour être policier.
Pour moi, c'est très important de pouvoir réguler les loyers et poser des limites. Je pense qu'il faut sanctionner les fonds vautours et ceux qui possèdent des appartements vides.
Le fameux bonus jeune suscite toutefois des espoirs. Beaucoup y voient la possibilité de s'émanciper. À en croire le Conseil de la jeunesse d'Espagne, le CJE, pas plus de 15% des moins de 30 ans parviennent à quitter le foyer parental. François Musso, Madrid RFI.
C'est une première, l'Organisation mondiale de la santé vient de rendre publique la première définition officielle du Covid long. Le Covid long, il correspond aux symptômes persistants dont souffrent certaines personnes qui ont contracté le virus plusieurs mois après avoir été infectées. Pour le docteur Janet Diaz, cette définition est bienvenue car elle estime que le manque de clarté sur le sujet parmi les professionnels de santé entrave les efforts en matière de recherche et de soins.
This is an important step forward to standardize the recognition of patients living with post-COVID-19 condition. We hope it will help clinicians and health workers recognize patients and start them on appropriate treatments and interventions and care pathways. We hope that policymakers and health systems will set up and implement integrated care models to care for these patients.
Le Covid en Australie, c'est un triste record qui vient de nouveau d'être battu dans l'état du Victoria avec aujourd'hui 1965 nouveaux cas recensés, un bilan qui tombe au moment où la ville rurale de Mildura est placée en confinement pour 7 jours dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à Melbourne depuis déjà plusieurs semaines, à l'exception du couvre-feu. Cette flambée de nouveaux cas, on l'impute aux manifestations qui se sont déroulées il y a maintenant quelques semaines à Melbourne. Un climat tendu dans la ville qui pousserait certains policiers à poser des arrêts maladie, voire même à démissionner car ils n'en peuvent plus de faire la police du Covid. Des allégations niées fermement par Danny Pearson, ancien ministre par intérim de la police du Victoria.
No, I don't believe so. I mean, I think that the people I speak with are in awe and are inspired by Victoria Police. Our officers have done an amazing job.
En Nouvelle-Galles du Sud, 580 nouveaux cas aujourd'hui, un chiffre qui continue de décroître. Par ailleurs, on est désormais tout proche du seuil de 90% de la population primo-vaccinée chez les plus de 16 ans. Dominique Perrottet, qui a pris la tête du gouvernement local cette semaine, s'en félicite.
We know that as we open up, case numbers will increase. But what has been key to keeping people safe is our high vaccination rate. We have the highest vaccination rate in the country, and importantly, we're coming close on that first dose mark to 90%.
Et rappelons que, alors que les bonnes nouvelles semblent s'accumuler pour la Nouvelle-Galles du Sud, que lundi, un certain nombre de restrictions seront levées. C'est le début de la fin de ce confinement qui a démarré maintenant il y a quasiment 15 semaines. On reste en Nouvelle-Galles du Sud. Kerry Chent, la médecin-chef de l'État, a pour sa part indiqué que les doses de rappel du vaccin pour le Covid-19 allaient être rendues disponibles très prochainement pour les personnes immunodéprimées. Une dose de rappel qui s'adresse pour l'instant uniquement à ceux qui ont des problèmes de santé graves, comme par exemple des cancers.
And this is due to emerging evidence that some immunocompromised individuals have not as good immune response and need that third dose to get that best chance of protection. So for the third dose, an mRNA vaccine, Moderna or Pfizer, is the preferred to AstraZeneca, and the recommended interval between that third dose is 2 and 6 months after the second.
C'est une visite parlementaire sous haute tension. Hier, des sénateurs français se sont rendus à Taïwan où D'ailleurs, au passage, on précise que l'ancien Premier ministre australien Tony Abbott se trouve actuellement aussi. Donc, ces sénateurs australiens, ils y étaient pour rencontrer un certain nombre de dirigeants. Et cette visite, elle est marquée par un contexte en ce moment très tendu, puisque la Chine, ces derniers jours et ces dernières semaines, a multiplié les provocations à l'égard de Taïwan, donc ce pays dont elle ne reconnaît pas la souveraineté. Pékin a également très vivement protesté contre la venue de ces parlementaires français à Taïwan. Adrien Simard pour RFI.
La visite des sénateurs français à Taïwan n'avait sur le papier rien d'extraordinaire, une venue comme on en compte presque tous les ans depuis plus de 40 ans. Mais c'était sans compter les menaces de Pékin pour faire annuler la visite, le sénateur Olivier Cadic.
Les régimes autoritaires considèrent que les démocraties, ça n'est pas le bon système pour le développement humain. Taïwan est le contre-exemple. La France est attachée à la démocratie. Et donc, nous sommes là aussi pour dire à Taïwan, vous n'êtes pas seul.
Car la visite des sénateurs arrive aussi en pleine démonstration de force de Pékin. En début de semaine, un nombre record d'avions militaires chinois a été identifié aux portes de Taïwan. Le sénateur Alain Richard.
Ces incursions sont la menace la plus sérieuse à la stabilité dans la région. On est observé depuis longtemps. C'est un signal d'alerte à l'ensemble des pouvoirs attachés à la stabilité dans la région.
Ces derniers temps, les soutiens à Taïwan se sont d'ailleurs multipliés. Ce matin, l'ancien Premier ministre australien Tony Abbott, lui aussi en visite à Taipei, n'a ainsi pas mâché ses mots pour soutenir le gouvernement taïwanais. Nous devons faire savoir à Pékin que tout usage de la force aura des conséquences considérables, a-t-il lancé devant la présidente taïwanaise. Adrien Simard, Taipei, RFI.
On termine comme toujours avec un point sur la météo du jour en Australie. 20 degrés et des nuages aujourd'hui à Perth, 21 à Adélaïde où on attend des averses dans l'après-midi, 23 degrés à Melbourne où la pluie là aussi pourrait s'inviter en fin de journée, 24 à Canberra et du soleil. Soleil aussi à Sydney avec 26 degrés, 29 degrés à Brisbane et jusqu'à 35 degrés à Darwin aujourd'hui.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.